n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Pour votre journal de la philo, aujourd'hui, vous nous proposez un tour d'horizon des essais sur la cause animale.
Eh bien, c'est toujours un sujet d'actualité qui continue donc à alimenter les réflexions des chercheurs de tous bords et donc des philosophes. Alors, ces essais ne prennent pas la même forme, mais ils ont tous le même but, nous sensibiliser à la cause animale intelligemment. La formule est importante car pour comprendre et agir sur une cause, encore faut-il y être sensible. Mais comment sensibiliser à un problème dont l'énoncé pourrait suffire à faire réagir, comment l'esprit peut-il être touché et activé sur un sujet?
Des actions choc, c'est la nouvelle méthode des associations qui défendent la cause animale. Elles dénoncent tous azimuts la fourrure, les cirques ou les abattoirs. Depuis 5 ans, leurs moyens d'action se sont durcis. Sur Internet, pour faire le buzz, elles diffusent chaque mois des nouvelles vidéos prises en caméra cachée. Comme ici, dans les abattoirs, mis en ligne par l'association L214. Ou encore dans les laboratoires, 4 millions de vues pour cette vidéo très polémique. Sur ces images, on découvre des chiens sur lesquels seraient testés des traitements pour soigner la myopathie dans un laboratoire financé par le Téléthon.
Parmi les moyens utilisés pour sensibiliser à une cause, il y a bien sûr le choc qui passe, comme ce genre de reportage, par l'image. Et l'image, c'est aussi le parti pris du livre d'Audrey Jougla et Laurent Baheu, Animalité, 12 clés pour comprendre la cause animale, qui associe des notions comme liberté, empathie, valeur, à des photos d'animaux. À ceci près que les photos, ici, tranchent par leur douceur, par leur beauté. La sensibilisation passe ainsi non par la reproduction des violences faites aux animaux, mais par un contre-pied à ces violences mêmes. Faut-il alors abandonner l'intention de choquer? Eh bien pas forcément, parce qu'un autre essai de Valérie Giroux contre l'exploitation animale mise, lui, sur la puissance de l'argument philosophique. Face à la logique implacable de la démonstration rationnelle, l'esprit ne pourrait que s'incliner, il ne pourrait que se rendre à l'évidence. Mais notre esprit est-il vraiment sensibilisé à coups d'arguments? Et inversement, notre chair est-elle en mesure d'agir rationnellement après un choc? La question est vraiment passionnante. Qu'est-ce qui fait qu'un problème, pourtant compris, pourtant ressenti, ne devient pas pour autant un problème pour moi? Pourquoi un problème comme celui de la cause animale ne me pose-t-il pas forcément problème?
L'évolution leur a donné 4 mains pour circuler à leur aise dans les arbres. Mais ces mains peuvent faire bien d'autres choses. Les orang-outans s'en servent beaucoup dans leurs ébats. Et de leur bouche aussi. Les macaques du Japon gardent la sensualité pour les bains. Eux s'accouplent brièvement, mais souvent. C'est indispensable pour déclencher l'ovulation. De toute façon, les préliminaires sont moins utiles puisque les partenaires se connaissent parfaitement.
Le problème de la sensibilisation de l'esprit à un problème, comme la cause animale, c'est de trouver à travers la parole et l'argumentation un registre intermédiaire entre le pur pathos et le pur rationalisme. Et c'est peut-être ce qu'on trouve d'une certaine manière dans ce genre de documentaire animalier, mais c'est aussi ce qu'on trouve dans le livre de Fleur Daugé, Animaux Homo, dans lequel elle se penche sur l'homosexualité animale, battant ainsi en brèche l'idée qu'elle serait contre nature. C'est une enquête étonnante, car elle ne fait pas entrer les animaux dans notre monde, de la politique, de l'éthique et de l'esprit, mais c'est elle qui entre dans leur esprit et dans leur monde. C'est d'ailleurs une tendance qu'on peut remarquer, la tendance à tenter de véritables expériences de pensée.
On avait ce qu'on appelle les meneurs de loups, mais il y a eu surtout les loups-garous. Hein, et nous avons trouvé les traces des derniers loups-garous. Hein, le dernier vivait là, pas très loin de Champly. Et il s'habillait avec deux peaux de loup. Alors il commettait ses larcins, il allait faire ses espèces d'incantations diaboliques aussi. Il allait dans les maisons quand quelqu'un était mort. Il arrivait vers les 2 heures du matin, puisqu'on faisait encore l'éveiller des morts dans ce temps-là. Il faisait le tour de la chambre, il s'incline un peu devant le lit, et puis il tendait une escarcelle en disant un petit sou de dessous pour mettre dans la gueule du loup-garou.
Alors on peut rire d'un tel récit.
C'est ce que je fais.
Un loup-garou ou un homme se prenant pour un loup, mais il restitue d'une certaine manière les expériences de pensée tentées aujourd'hui, celles non pas de penser l'animal ou de penser avec l'animal, mais de penser comme un animal. On pourrait presque dire que c'est du transanimalisme. Et c'est ce que révèle le livre passionnant de Baptiste Morisot sur la piste animale qui est paru chez Actes Sud. Dans la lignée de l'américain vétérinaire Charles Foster, qui se met dans la peau d'une bête. Il nous raconte, lui, comment pister, c'est-à-dire comment apprendre non pas à être sensibilisé aux animaux, mais sensible comme des animaux dans leur manière de vivre et d'habiter le monde.
Merci Géraldine. Beaucoup d'ouvrages à conseiller sur cette histoire, sur cette question de l'exploitation animale.
Alors, le dernier que je viens de citer, c'est Baptiste Morisot sur la piste animale aux éditions Actes Sud. Valérie Giroux contre l'exploitation animale, c'est aux éditions L'Âge d'Homme. Animalité de Laurent Baheu et Audrey Jouglas chez Atlan. Et enfin, Fleur d'Auger, Animaux, Homo, Histoire naturelle de l'homosexualité, c'est chez Albin Michel.